Et bonjour à chacun pour cette nouvelle émission. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de Fabienne. Bonjour Fabienne.
Bonjour David et bonjour tout le monde.
Alors, tout d'abord, merci, parce que si ce podcast existe, en fait, c'est à cause de toi ou grâce à toi, je ne sais pas comment il faut dire, puisque
Alors,
tu m'as dit,
grâce, c'est bien, c'est grâce.
on va dire grâce, d'accord, on va dire grâce. Parce qu'un jour, tu m'as dit, David, il faut qu'on fasse quelque chose pour tous ces zèbres qu'on a partout. Trouve quelque chose à faire. Alors j'ai cherché et puis c'est la seule chose que j'ai trouvée qui pouvait être pertinente et correspondre à qui je suis. Donc voilà, cet outil existe aujourd'hui grâce à Fabienne ici présente.
Ben, j'en suis très contente en tout cas. Je te remercie pour le super boulot que tu fais et puis tous ceux qui sont intervenus. J'ai pas pu écouter tout le monde, mais j'en ai écouté une grande partie et c'est vraiment riche, quoi. Et moi, je suis un zèbre ou une zèbre, on ne sait pas comment on dit ces choses-là, qui est débutante, hein, dans l'histoire. Donc j'apprends.
Ça marche, mais on va en parler un petit peu aujourd'hui.
Ouais, voilà.
Et justement, aujourd'hui, pour changer d'angle un peu, on va vous proposer un échange plus à destination des personnes qui ont à gérer dans leurs équipes, bien des personnes à haut potentiel intellectuel. Et si ce n'est pas votre cas, ben, restez quand même. Vous y apprendrez certainement des choses au passage sur vous et sur les autres. Mais avant de commencer, est-ce que tu voudrais bien commencer par te présenter, Fabienne, un peu, en choisissant ben, laquelle des différentes casquettes tu souhaites dévoiler aujourd'hui pour ce podcast?
Ok, bah écoute, merci. Alors, bon, je ne vais pas dire que je suis pasteur et tout ce que j'ai pu faire, mais je vais plutôt me recentrer sur cette histoire de haut potentiel. Donc, moi, je suis née au siècle dernier, et au milieu du siècle dernier. Et alors, ces histoires-là, bah, alors, c'était même pas l'ordre du jour. Aujourd'hui, je suis fascinée par tous les parents qui vont faire des tests pour savoir si les enfants, etc., etc., et puis ça fait effet miroir sur eux. Et ça a l'air normal, mais à mon époque, on ne se posait même pas la question, quoi. Donc, moi, j'ai grandi dans une famille super dysfonctionnelle avec deux divorces à la clé et un troisième. On a dit à ma maman, c'est bien si tu ne te remaries pas, ce n'est pas obligé, quoi, voilà. Donc, on ne s'est pas du tout occupé de moi dans cette histoire-là. J'ai grandi toute seule. Et ce qui fait que personne n'a pu me dire que je fonctionnais normalement ou bizarrement, voilà. Pour donner une petite anecdote, quand je suis rentrée en CP, ils se sont aperçus quand j'étais en CP que je savais lire parfaitement et qu'il fallait que je saute une classe parce que j'allais m'ennuyer toute l'année. Mais personne n'avait vu ça, ni les instits et mes parents, bien sûr, encore moins. Donc ça a été un peu toute ma scolarité, où j'étais dyslexique aussi, légèrement, mais quand même assez pénible. Donc, je pense, comme toi et beaucoup, une catastrophe en orthographe. J'ai appris péniblement l'alphabet, je crois, en sixième. C'était une langue étrangère, ce truc-là. Voilà. Bon, bref, donc toute ma scolarité a été un peu compliquée. Et puis, je reconnais que je n'ai pas fichu grand-chose, parce que bah, j'avais des facilités. Et mon leitmotiv de l'école, c'était toujours peut mieux faire. Donc, en fait, ça m'a très bien été comme ça. J'étais à l'aise dans cette histoire-là. Et puis, j'ai donné ma vie au Seigneur il y a à peu près, j'avais 19 ans. Donc, j'étais en fac de droit. Donc, je suis juriste de formation. Et là aussi, les études, ça, c'était tranquille, mais j'ai fait un peu le minimum syndical, on va dire. Mais là, ce qui m'a commencé à me poser problème, c'était l'Église. Donc déjà de mon temps, quand je me suis convertie, j'ai eu l'impression que je rentrais dans un monde qui sortait à peine du Moyen Âge. Je sais pas comment dire ça. Et dans la petite communauté où j'étais, c'était très étrange les règles du jeu. Donc je suis rentrée dedans, j'aimais profondément Jésus. Je me dis, ben, c'est comme ça. Donc d'abord, en étant femme, c'était un handicap. Je n'avais pas bien compris. Déjà, dans la société, ce n'était pas gagné à mon époque. Mais dans l'église, c'était une catastrophe. Et le fait d'avoir quand même deux neurones qui fonctionnent à peu près bien, là, ça, c'était une catastrophe, quoi, voilà. Donc, du coup, je n'ai pas bien su me situer à ce niveau-là. Et le fait d'avoir une intelligence qui fonctionne bien et vite était un vrai handicap pour toute ma vie chrétienne et j'ai oscillé pendant des années à essayer de comprendre ce qui marchait pas. Le seul endroit où je me suis retrouvée à peu près, c'est que dans mon travail, j'ai été donc juriste, juriste d'entreprise et puis juriste dans une association du droit des femmes et des familles. Et je crois que j'étais brillante, je n'ai pas d'autres mots. Je me suis adaptée un peu à tous les milieux, tout, j'ai fait des tas de trucs pas possibles. J'étais jeune et j'ai même été repérée. Ils voulaient m'embaucher à Paris dans un gros cabinet d'avocats. Je me demandais pourquoi. Moi, j'étais. Pourquoi ils me voulaient moi? C'était débile, quoi. Et d'autres travails que j'ai fait aussi, ils voulaient absolument me garder en me disant, mais même si tu travailles moins, on payera plus, t'inquiète pas. Mais bon, Dieu m'avait dit qu'il fallait arrêter. Voilà, donc les seules choses où je me suis sentie valorisée, ce n'était pas dans l'église, on va dire ça comme ça. Donc, quand tu as des problèmes de rejet, de rébellion et trucs comme ça ne m'a pas trop aidée. Et puis, je comprends bien que quand on est HP, en tout cas, moi, je suis hypersensible aussi. Donc, du coup, hypersensible au niveau. De tous mes sens. J'ai fait partie pendant 20 ans d'un groupe musical avec des problèmes de quand c'était trop fort, tout le temps j'embêtais tout le monde. Enfin bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, peu importe. Donc j'ai une hypersensibilité de tous mes sens et puis une hypersensibilité aussi à toutes les atmosphères. On met dans une atmosphère pas sympa. Maintenant je le gère mieux, mais à l'époque c'était une catastrophe, quoi, voilà. Bref, donc j'ai vécu avec ces handicaps et je me suis jamais posé la question. Si j'étais HP, puisque ce n'était pas l'ordre du jour, quoi. Et puis, j'ai commencé à accompagner dans notre centre ici, puis des gens qui m'appelaient, des gens qui se posaient des questions, ils me disant, ouais, je suis HP, mes enfants sont HP, et puis ça commençait à me gaver, je veux dire. Je dis, non, mais tous ces gens qui se la pètent, ça commence à. C'est quoi cette nouvelle mode? Donc, comme vous, ceux qui écoutent ça et qui sont comme ça, vous comprenez que quand vous avez un sujet que vous ne connaissez pas, vous plongez maintenant dans Internet et dans tous les bouquins, et après vous pouvez passer votre diplôme au bout d'une semaine. Et donc je suis allée chercher qu'est-ce que c'était que le monde des HP, et plus j'avançais, plus je disais, mince, ça quand même, ça me ressemble un peu cette histoire-là. Donc ça a fait un effet miroir, et j'ai posé la question à des gens professionnels qui me connaissaient, et je leur ai dit, vous pensez, me dit, mais qu'est-ce que tu poses comme question? Bien sûr que tu l'es. Donc aujourd'hui, je ne suis pas allée faire des tests parce que vu mon âge, c'est ridicule. Mais voilà. Et puis la deuxième chose qui m'a montré aussi que j'étais comme ça, c'est que j'ai fait un gros burn-out qui a duré en gros 5 ans. Quand on fait un gros burn-out bien cogné, en fait, on perd toutes ses capacités. Et j'ai perdu toutes mes capacités que je n'ai retrouvées que étape par étape. Et ce que je me suis aperçue à ce moment-là, c'est là que je ne fonctionnais pas comme les autres. Je me suis aperçue, je n'avais jamais réalisé que je pouvais faire trois choses en même temps et que j'avais aucun souci, que ça marchait très bien. Et là, je me suis retrouvée péniblement en faire qu'une seule. Je me suis dit, et ça avait l'air normal pour les gens avec qui je bossais, enfin, en tout cas ce qu'on appelle les normopensants, ça fait toujours un peu bizarre. Bon. Bref. Et donc là, je me suis aperçue que je fonctionnais différemment. Ces dernières années, je me suis réconciliée avec mon système intérieur, avec mon mode de fonctionnement, avec mes capacités de réflexion, de leadership qui sont différents. Et ça m'a donné un autre regard sur mon enfance, qui était du coup beaucoup plus bienveillant et beaucoup moins négatif sur ce truc-là. Je me suis aperçue aussi que cette hypersensibilité, ce désir de comprendre dans tous les sens, m'a beaucoup aidée dans ma vie spirituelle, en fait. Parce que ça m'a permis, je suis une chercheuse en fait. Moi, je me qualifie pas accessoirement de pasteur dans ma profession, mais je suis une chercheuse de tout dans le monde spirituel, dans les choses de Dieu. Et ça, je crois que c'est vraiment un bon outil, quoi. Donc, j'en suis reconnaissante au Seigneur, quoi. Voilà. Mais mon histoire de HP qui ne le savait pas a été compliquée avec l'Église parce que je n'ai pas trouvé de cadre qui me. Où j'étais à l'aise. Aucun cadre m'allait, ce qui fait que j'ai développé beaucoup de choses en dehors du cadre de l'église locale. Donc j'ai fait plein de choses dans l'église locale et j'aime l'église locale, j'ai pas de sujet là-dessus. Mais pouvoir être libre et pouvoir rentrer dans les choses que j'avais en moi, j'ai dû vraiment rentrer plutôt dans des œuvres que rester simplement, gentiment et tranquillement, dans les cadres normaux qu'une église locale propose aujourd'hui. Voilà.
Merci pour tout ça. Alors, j'ai prévu quelques questions et je vais commencer par une question que normalement on pose à la fin, mais c'est pas grave. La question, c'est que du coup, avec toutes ces années, toutes ces implications, avec des équipes diverses et variées, ça t'est arrivé à plusieurs reprises finalement, si tu réfléchis, si tu repenses au passé, aux personnes avec qui tu as eu à collaborer, et tu as dû fonctionner avec des personnes qui, comme toi, sont des personnes à haut potentiel intellectuel, ce qui n'est pas toujours facile. On va rentrer un peu dans les détails un peu plus tard, mais pour commencer, est-ce que tu pourrais donner des conseils à la jeune Fabienne, toute fraîchement responsable d'équipe ou de projet, par rapport à la gestion de ces personnes-là? Qu'est-ce que tu aimerais pouvoir lui dire après toute ton expérience et ces nouvelles lunettes qui te permettent de regarder ton expérience différemment?
J'aime bien cette question-là. Je crois que je commencerai par me dire déjà prends soin de toi. Quand j'ai commencé à travailler avec les autres, la chose qui m'a le plus énervée, c'était la lenteur. Et encore aujourd'hui, je dois me centrer dans à Jésus qui est en moi en disant que tout va bien. Donc tout ce qui est lent m'énerve. Enfin, m'énerver. Donc, je dis ça se travaille pour apprendre aussi la grâce, la patience, ça fait partie des fruits de l'esprit. Et des fois, il y a besoin aussi de guérison. Donc, ça, c'est la première des choses qu'il faut apprendre, je trouve, à traiter. Sinon, on n'est pas agréable avec les gens à qui on bosse. Et moi, j'ai pas toujours été agréable aussi parce que ça turbine, en fait, plus vite, quoi. Donc, ça, prendre soin. Et puis, prendre soin aussi de soi au niveau des blessures, de rejet, de rébellion, de trucs comme ça, parce que c'est, du coup, comme on va rencontrer des gens qui ne comprennent pas bien ou qui fonctionnent pas comme nous, ça accentue les deux. Et donc, on a un mal-être qui s'inscrit et qui s'aggrave avec le temps au lieu de se guérir. Donc, voilà, de vraiment essayer de laisser Jésus guérir et puis de trouver des gens qui comprennent. Aujourd'hui, il y en a. Qui peuvent dire OK, mais tu as besoin de travailler sur toi pour pouvoir aussi ne pas te mettre en recul et vivre l'histoire du vilain petit canard, quoi, voilà. Et puis, donc pour moi, c'est important en tout cas parce que aussi j'aime les gens et j'aime la personne humaine de travailler sur le ressenti de la différence et d'aider les gens à dire oui, tu ressens qu'il y a une différence. Mais on va quand même travailler là-dessus. Donc ça prend du temps. Mais en tout cas, pour moi, ça, c'est la base de ce que je dirais. Ensuite, ce que je me suis aperçue avec l'âge aussi, c'est que quand on a 20 ans, ou j'en ai un peu plus maintenant, on n'a pas la même maturité. Même si j'étais sûre à cet âge-là que j'avais tout compris et fait toutes les guerres. De dire que la maturité aussi, c'est un process. Et qu'il faut aussi, pour quelqu'un qui est HP, des fois, il oublie qu'il n'est pas mûr. Il réfléchit très bien, mais des fois, il est aussi mûr qu'un ado. Et un HP qui est ado, c'est mignon, mais un adulte qui est HP et qui encore réfléchit comme un ado, c'est un peu pénible. Donc, de travailler aussi cette histoire-là, surtout quand il y a vraiment du haut potentiel aussi émotionnel. De travailler ça pour aussi donner des espaces où on se détend. Il faut détendre le HP, qu'il ne soit pas toujours sous pression et en train de. Enfin, moi, souvent, le mot qui me revenait, c'est vital, c'est urgent, c'est important. Tout n'est pas vital, tout n'est pas urgent, tout n'est pas important. On va se détendre. Voilà. Ensuite, essayer de donner un cadre qui est à la fois sécurisant. Parce que tout le monde a besoin de sécurité, ça fait partie des principes de l'humanité pour bien fonctionner, mais pas être figé ni enfermant et laisser beaucoup d'initiatives et de liberté aux gens. Donc, moi, je n'ai pas trouvé ça et ça ne m'a pas aidé. Et je me dis que travailler avec des gens qui sont comme ça, c'est bien de dire il y a un cadre, parce que sinon, il y a plus chacun fait sa life, mais aussi de dire. Je te laisse de grandes libertés et d'initiatives. Et je pense que ça rend service aussi aux HP parce qu'ils vont être porteurs de pensées, d'idées, de choses qui sont peut-être complètement révolutionnaires. Moi, dans mon cœur, je sens que pour la saison qui vient et pour ces temps qui sont là, les HP sont une chance pour l'Église parce qu'ils ne réfléchissent pas dans les cadres. Et à partir du moment où on ne réfléchit pas dans les cadres, ça veut dire que. On va l'appeler comme ça, l'esprit religieux a beaucoup moins de prise, en tout cas sur les initiatives et sur les idées. Aujourd'hui, je vois beaucoup de jeunes qui pensent qu'ils font des choses nouvelles parce qu'ils sont jeunes, mais ils sont toujours dans les choses anciennes, rafraîchies. Je donne souvent, avec ceux qui avec qui je travaille le savent, le nouveau pour ces personnes-là, c'est je prends la même pièce et je la retapisse et je change les meubles de place. Waouh, on a fait du nouveau. Et alors qu'un HP a cette capacité de dire, mais non, il faut sortir de la maison et tout est à revoir et les plans vont être différents. Et peut-être c'est pas une maison d'ailleurs, pourquoi vous réfléchissez en maison? Peut-être que ça peut être autre chose. Donc je pense que c'est vraiment une chance, en tout cas c'est ce qu'il me semble entendre. Et que je pense qu'il faut qu'on puisse créer des lieux et des espaces où les HP ont cette capacité d'être guéris et d'être mûrs. Et on arrive à maturité quand on est aimé et quand on sait qu'on peut aimer aussi gentiment les gens. Mais après, on peut les lâcher, ils peuvent galoper, quoi. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose aussi que j'essaierai de dire à moi plus jeune. Voilà. Et je pense que le HP, c'est vraiment un diamant à multifacettes qui a besoin d'être taillé au fur et à mesure parce que, au fur et à mesure que le HP avance, il découvre d'autres passions, d'autres centres d'intérêt. Et pour nous croyants, Dieu qui met en valeur un autre aspect de nous qu'on ne connaissait pas et qui va être taillé, il faut être taillé toujours, hein. Mais en tout cas, c'est vraiment il est une richesse pour l'Église. Mais il y a ce besoin d'être mis en valeur. Et le problème du HP, c'est des fois qu'il y en a certains, et je me mets dans les certains, on se la pète tellement qu'on est très désagréable parce qu'on n'est pas guéri et ça ne donne pas envie aux autres de nous mettre en valeur. Parce que je trouve qu'on s'y est déjà mis assez. Alors, je ne dis pas que c'est le cas pour tout le monde parce qu'il y a le syndrome de l'imposteur, mais des fois, derrière le syndrome de l'imposteur, il peut y avoir des trucs chelous derrière. Voilà. La petite expérience qu'on vit ici, donc dans notre centre apostolique, si on prend les grands mots, c'est que moi je veux vraiment en faire un, parce que c'est Dieu qui me l'a dit, il me semble, et nous l'a dit, en faire un centre de recherche et d'expérience. Et ça, je crois que c'est des lieux pour les HP qui sont très bons. C'est-à-dire que on essaye. Moi j'aime bien donner une prime de risque aux essais. Ben, ça n'a pas marché, mais c'est pas grave. Aucun chercheur ne se dit, si je cherche, je dois absolument trouver tout de suite, sinon je suis nulle. Et je pense que pour un HP, il faut lui donner de la latitude de chercher, d'essayer, ça marche pas, c'est pas grave. Mais il faut aller jusqu'au bout, et ça peut prendre du temps. Donc il y a besoin de créer dans des espaces, dans tous les lieux de travail où l'on est, et dans l'Église aussi en particulier, des endroits où on a le droit de réfléchir en dehors des cadres, de proposer des chemins qui n'existent pas ou qui sont pas cachère, je dirais de mon côté, et ils ne sont pas correctement religieux, mais qui sont nécessaires pour faire avancer le royaume de Dieu. Je pense que Jésus devait être HP, et il n'a jamais réfléchi dans les cadres, quoi. Il a toujours proposé des solutions qui étaient hors du cadre, mais il a fait avancer le royaume de Dieu. Voilà. Ensuite, les deux dernières choses auxquelles je pense. Quand un HP commence à prendre des responsabilités, parce que c'est aussi quand même sa vocation, c'est bien de ne pas le figer dans un seul profil, mais que ce profil puisse être évolutif. Et il y a des chances qu'il soit assez généraliste et qu'il soit touche à tout. Et il faudra apprendre à voir les saisons avec lui et d'apprendre à discerner le global du spécifique au fur et à mesure de sa marche avec le Saint-Esprit.
Merci. Et justement, tu parlais des différentes facettes des HP. Il y a une autre facette que j'aimerais qu'on aborde, c'est qu'il semble que certains personnes à haut potentiel, ayant une grande capacité de suradaptation, et c'est une partie non négligeable d'entre eux, et d'ailleurs qui font partie de ces certains de HP qui s'ignorent, ils savent même pas qu'ils le sont. Et pour un temps, en tout cas, pour un temps, ils peuvent accepter de rester dans une place et un rôle qui finalement ne le co leur correspond pas et n'est pas leur leur. Alors, comment faire pour les accompagner pour qu'ils entrent dans leur appel, qui leur est personnel, et pas juste qu'ils entrent dans un moule déjà tout prêt?
Ben c'est une vraie question, hein. Ça rejoint un peu ce que je disais précédemment, mais c'est lié à l'accompagnement. Je pense qu'un AHP, il a besoin d'être écouté, bah, comme tout le monde, hein, mais un peu plus pour discerner ce qu'il est en vrai ou ce qu'il n'est pas. Et ce qu'il y a de marrant, bah, je crois que ça a été dit dans d'autres podcasts que tu as sortis avec d'autres amis, c'est de dire que je ne sais pas comment on est livré complètement, mais nous avons des radars qui discernent les autres HP, si ça fonctionne bien. Donc, je pense que c'est d'encourager, de dire, mais va plus loin, comprends qui tu es et essaie de rentrer dans ce pourquoi tu es fait. Et donc, c'est vrai que la suradaptation, moi, je l'ai vécue toute ma vie. J'ai compris que dans le système ecclésial, si je voulais survivre, je parle même pas de vivre, il fallait que je renonce à une partie de moi. Je sais le faire, je n'ai pas de souci là-dessus, mais à un moment donné, c'est vraiment se couper une partie de soi. Et c'est mauvais pour soi-même, parce qu'après, ça demande de la guérison, mais c'est même dommage pour le corps du Seigneur, quoi. Et donc, pour ces HP qui sont en suradaptation, il faut les encourager, toujours avec cette question de guérison. Pour moi, c'est très important, quoi, d'être bien dans qui on est et de les encourager à retrouver qui ils sont. Et chaque HP, en fin de compte, est unique, hein. Je sais qu'il y a des catégories, il y a plein de catégories, mais même dans les catégories, Dieu nous a créés quelque part uniques, quoi. Et de dire, moi, je trouve que c'est un joli travail, quoi, d'aider un HP à émerger, à se découvrir, à se déployer, à libérer ses ailes et à pouvoir s'envoler dans ce pourquoi il est fait, quoi. Donc, c'est un défi, mais je crois que c'est quand même bien. Et ce qui aide le HP pour ça, c'est qu'il fasse des choses pourquoi il est fait et des choses pour lesquelles il n'est pas fait. Et qu'il arrive à sentir la différence en disant, bah oui, tu ne vas pas faire que des choses incroyables. Il y a aussi le quotidien, ça fait partie de ta vie. Mais tu comprends bien la différence. Et c'est là où on joue sur l'adaptation, la suradaptation et ce pourquoi je suis vraiment fait, quoi. Voilà. Et après, ce qui me semble le plus important, c'est aussi développer l'écoute du Saint-Esprit. Parce que c'est quand même cette voix intérieure que normalement Dieu nous a créé avec une capacité d'entendre si on apprend à ce que notre ordinateur central se calme. On a une sensibilité à l'esprit qui est très intéressante et qui permet que les HP, du coup, puissent, une fois qu'ils ont mis en repos leur intelligence, entendre des choses assez facilement, quoi. Donc, ça c'est chouette aussi, quoi.
Ça marche. Du coup, on est en train de voir que quand on est responsable en collaboration avec des HP, ça implique des changements dans le management. Donc, tu le vis aujourd'hui en qualité de leader, mais tu as eu le vivre également toi-même en tant que porteuse de cette spécificité. Et est-ce que tu pourrais nous raconter quelques exemples où tu as pu parfois te sentir enfermé, freiné ou même blessé? Alors bien sûr, sans détailler, l'objectif n'est pas d'accabler des personnes, surtout que bah, ces phénomènes, comme tu l'as dit en introduction, étaient alors totalement inconnus. Et du coup, j'aimerais y rajouter une deuxième question qui va avec. C'est du coup, bah, ces anecdotes, pour toi, t'ont permis d'apprendre des leçons, et sont aussi une richesse qui te permet de fonctionner toi-même différemment. Donc, est-ce que tu pourrais nous apporter les deux, l'anecdote, et ce que ça t'apprend en tant que responsable aujourd'hui?
Ok, alors j'en ai une qui m'a. C'était le début de ma vie chrétienne. Donc j'ai. Puis je ne vais pas dire qui c'était, mon responsable, de toute façon, il est mort. Plutôt. Bon, j'ai eu une conversion qui était radicale. J'étais enthousiasmée par Dieu, je suis tombée amoureuse de Dieu, je voulais évangéliser la planète entière d'une sagesse zéro. C'était une catastrophe. Et puis j'ai lu un livre donc on parlait d'ailleurs ce week-end, c'est drôle, qui s'appelle Nouveau style de vie dans l'Église de Michael Harper. J'ai lu ce livre et il m'a bouleversée. En gros, c'était l'Église, elle n'est pas juste faite pour faire, et je ne critique pas hein, des réunions et s'occuper des gens, mais l'Église aussi est une réponse pour le quartier, la ville où on est, pour donner aussi un secours social et prendre soin du corps, de l'âme et de l'esprit. Donc, il y avait des implications pratiques, nourrir les pauvres, prendre soin au niveau médical, les vêtir et faire du counseling et tous ces machins-là. Voilà. Donc, je vais voir mon leader et je lui dis, voilà, c'est ça que je rêve. Pour moi, je pense que c'est vraiment mon appel et j'aimerais faire ça. Alors là, il m'a rien manqué. Il m'a dit, mais non, ça marche pas. T'as vu la Croix-Rouge, comment c'est devenu? Les œuvres chrétiennes, ça finit toujours en œuvre sociale où il n'y a plus Dieu. Voilà, je me suis fait rembarrer. Et c'est comme si, à ce moment-là, on m'avait coupé les ailes, puisque l'Église allait ne plus m'intéresser pendant des années, puisqu'elle ne correspondait plus à ce que j'avais envie. Donc, je suis allée rêver ailleurs, parce que j'avais d'autres rêves, comme tout le monde, quoi, voilà. Mais aujourd'hui, ce que j'en tire comme expérience positive, c'est que les gens qui viennent me voir, ils ont des rêves qui ne sont pas les miens. Et ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas de Dieu. Donc je dis, bah, écoute, vas-y, essaye, il y a de la place. J'essaye toujours de laisser de la place à d'autres qui ne rêvent pas comme moi, qui ne sont pas dans ma boîte à moi, parce qu'on a tous des boîtes, hein, faut être honnête. Voilà, donc ça m'a vraiment aidé, en tout cas, d'essayer de pas, en tout cas, reproduire cette histoire-là. Et c'est vrai qu'il y a des fois, il y a des gens qui arrivent avec des trucs, tu te dis, waouh, ben, si c'est de Dieu, c'est cool, mais sinon, c'est un peu particulier ton histoire. Mais d'arriver à pas enfermer les gens dans un cadre qui est trop, trop, trop étroit, quoi, voilà.
Ça marche. Et ouais, justement, comme tu l'as, la crainte de ce responsable, c'est lié à l'histoire de l'Église, parce que l'histoire de l'Église, elle est parsemée de moments de temps de réveil, de révélations nouvelles, puis de cristallisation, de normalisation. La révélation d'aujourd'hui peut devenir le dogme de demain. Et justement, il semble que certaines personnes à haut potentiel réfléchissent plus facilement en dehors de la boîte, comme tu l'as dit, et ont souvent besoin de comprendre le pourquoi on fonctionne comme on fonctionne, plutôt que simplement faire ce qui est attendu. Mais alors, du coup, ce comportement peut ne pas être accueilli comme un questionnement légitime et catalogué un peu trop simplement dans la catégorie rébellion. Du coup, avec toi, j'aimerais qu'on aborde ce sujet de deux points de vue. D'abord, du responsable. Comment faire pour distinguer entre les deux? Comment accueillir les questionnements qui nous dérangent pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire un questionnement légitime, bien que parfois maladroit? Et en même temps, en tant que porteur de projet ou porteur du questionnement, comment savoir si je suis dans le questionnement légitime ou si je suis dans la rébellion ou les deux en même temps?
Bon, ça, c'est compliqué hein, quand même. Je dirais que, en tant que, là, je me place en tant que responsable. Bon, on a quand même toujours régulièrement des personnes qui viennent nous questionner sur le pourquoi on fait ça. Mais des fois, le pourquoi n'est pas une vraie question. C'est qu'il y a une autre question qui n'est pas qui a des non-dits. Donc c'est déjà ça qu'il faut essayer de comprendre. Mais le HP, c'est vrai, il veut comprendre vraiment pourquoi. Et moi, ça me dérange pas du tout qu'on me questionne sur le pourquoi, parce que ça, je trouve ça légitime. Comment ça marche? Pourquoi on fait ça? Moi-même, j'analyse. Même les choses les plus bêtes de ma vie, je suis toujours en analyse de voir que je suis quelqu'un qui est en mode process intérieur, comment je peux améliorer, comment on peut perdre moins de temps, comment on pourrait. J'ai un ordinateur intérieur là-dedans, c'est insupportable d'ailleurs par moments. Je dis, chut, on se calme. Donc je peux très bien comprendre qu'on vienne me voir. Ce qui est compliqué pour un leader, c'est surtout la façon. Après, je pense pour quelqu'un qui n'est pas bien à l'aise dans le pourquoi il le fait, quand quelqu'un vient le questionner, ça le déstabilise, ça le désécurise, et ça, c'est compliqué pour lui. Donc, je pense qu'un HP doit aussi, dans sa maturité grandissante, comprendre à qui il parle et qu'est-ce qu'il faut dire pour pouvoir être entendu ou pas. Moi, je sais que j'ai dit dans le passé des choses, je les ai mal dites, parce que j'étais pas bien guérie. Et je les ai pas dites au bon moment, et c'est pas bon. Et je les ai pas dites aux bonnes personnes qui étaient en incapacité de recevoir mes remarques parce que c'était une déstabilisation d'eux-mêmes, quelque part, quoi. Donc je crois qu'il faut là, si Dieu nous a donné quelque chose qui fonctionne bien au niveau de l'intellect, il faut qu'on soit aussi intelligent sur à qui c'est qu'on remet en question en vrai? Est-ce que ça va l'aider ou est-ce qu'il faut faire un autre mode de fonctionnement? Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est la bonne façon de faire?
Et
Donc
sur le côté, comment moi savoir si je suis mon questionnement, il est légitime ou c'est juste de la rébellion?
Alors, je ne peux pas parler pour les autres. Je sais ce que, comment moi j'ai dysfonctionné. Je sais qu'à un moment donné, c'est juste, c'est des vraies questions. J'ai des exemples comme ça où j'étais dans des réunions où ça fonctionnait à l'envers. Et de par mes compétences et de par professionnel, hein, je dis, mais là, on ne peut pas faire ça. Et vous vous trompez. J'ai sûrement pas bien, mais j'ai pas mis les bons cadres pour le bon truc. Oh, j'avais de l'orgueil, je me mêlais de ce qui ne me regardait pas, c'était pas ma place, je me suis fait ratatiner. Alors que pour moi, là, j'avais de bonnes intentions. Donc, des fois, on a de bonnes intentions et là, il y a de la vraie blessure derrière. Et d'autres fois, on se sert de nos capacités pour aller attaquer et c'est pas bon, quoi. C'est un peu de la rébellion parce qu'on en a marre, il y a des choses qui ne sont pas guéries en nous. Et ça, je crois que c'est vraiment quelque chose qu'il faut travailler. Quand j'étais beaucoup plus jeune, j'ai compris que si je mettais en marche mon cerveau intérieur et si je commençais à parler, je pouvais démolir les gens très facilement. Et ça m'a fait peur. Je me suis dit, waouh, c'est quoi cette capacité-là? Je peux te latter en 3 secondes, toi. Et je pense que des fois, dans l'église, il faut qu'on fasse attention à ça aussi. Et là, on doit grandir dans l'amour. Et dans la patience, et ça nous demande un vrai travail personnel. Mais ça, c'est nous qui savons. Voilà. Moi, je sais que moi, j'ai un critère pour moi. Quand il y a une situation qui m'énerve trop ou qui me fait surréagir, je me dis, alors là, tu te calmes, tu vas traiter qu'est-ce qui te fait surréagir, et après, tu pourras aller parler aux gens. Et ça va aller sûrement beaucoup mieux.
Ça marche. Et merci beaucoup pour tout ça, parce que si je vois, il y a un petit fil rouge qui est sur cette discussion. Quand on parlait de comment se positionner en tant que responsable ou même en tant que nous-mêmes, à chaque fois, la base qui semble être ressortie, c'est commencer par prendre soin de nous, commencer par guérir. Et je pense que ça semble être un juste conseil. Alors, merci pour tous ces conseils, ces anecdotes, et puis ce partage d'un peu de qui tu es, Fabienne. Et puis peut-être à une prochaine pour une autre émission.
Écoute avec plaisir. Merci David, en tout cas, pour tout ce que tu fais, c'est super.
Merci à chacun de nous avoir écoutés jusque-là, et puis à la semaine prochaine. Au revoir.
Revoir.